soir, dans une conférence de presse organisée le week-end dernier, le Premier ministre a dressé un bilan positif de l'action de son gouvernement en 2013. Sur le plan économique, Matata Ponyo se félicite de la stabilité du cadre macroéconomique dans un environnement économique international et national, dit-il, perturbé. Sur le plan social, le Premier ministre évoque notamment la construction de 1000 écoles et l'équipement de 135 centres de santé. Quelle lecture faire du bilan dressé par le Premier ministre sur les plans économiques et sociaux? Pour en parler, nous avons comme invité professeur Jean-Baptiste Tangoma, conseiller principal du Premier ministre chargé des stratégies et prospectives économiques. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le ministre.
Honorable Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS, il est membre de la commission politique, administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale. Honorable Okundji, bonsoir.
Bonsoir.
Israël Moutala, il est journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Premier ministre congolais a présenté le bilan de son gouvernement de l'année 2013 et les perspectives 2014. Dans une conférence de presse samedi dernier à la primature, Augustin Matata Ponyo qualifie de positif ce bilan. On l'écoute s'exprimer sur l'aspect économique au micro d'Innocent Olinga.
L'élément le plus important ou de référence, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Dans l'histoire de notre pays, la RDC n'a réalisé une stabilité macroéconomique aussi permanente comme aujourd'hui. Autant l'environnement économique international était perturbé, autant l'environnement national était grévé par des perturbations à l'est du pays. Mais en dépit de tout cela, nous avons réalisé un taux d'inflation de 1%. Qui propulse la RDC dans les top 1 du continent africain. La RDC est le seul pays en Afrique qui aura réalisé les taux d'inflation de 1%. Et ceci depuis 1960. Comme vous le savez, depuis près de 4 ans aujourd'hui, notre taux d'échange tourne aux environs de 923 francs congolais les dollars.
On écoute à présent le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'exprimer sur l'aspect social au micro d'Innocent Olinga.
Nous avons un programme de 1000 écoles que nous sommes en train de construire. Avant d'entrer dans la salle, j'ai posé la question au patron de l'enseignement primaire et secondaire. Il me disait ceci. 130 écoles ont été livrées. Moi-même, j'en ai été témoin pour quelques-unes ici à Kinshasa. En plus des écoles qui sont construites, le ministre nous dit qu'il y a 237 qui sont en cours de finition, donc qui seront livrables d'ici là. La santé. Le ministre de la Santé me disait tout à l'heure qu'il y a des équipements pour 135 centres de santé qui sont déjà disponibles, réception. Et nous sommes dans un programme de 1000 centres de santé et 300 hôpitaux dans l'ensemble de la République. Je voudrais aussi parler du secteur des transports. Je vois le ministre des Transports qui est là. Avant d'entrer ici, il me disait qu'il y a 70 bus nouveaux, pas d'occasion, qui vont accoster à Boma bientôt et qui vont propulser le stock actuel de bus à 300 bus. Pour votre mémoire, mesdames et messieurs la presse, le stock le plus élevé que Sotraz ait jamais atteint, c'était 300 bus, du temps où la Gécamine produisait 1 milliard de dollars. Le ministre me disait, il y a 200 qui vont arriver encore d'ici avril. Donc on va être à 500 bus ici en avril. Et probablement, avant la fin de l'année, à 1000 bus.
Professeur Jean-Baptiste Tangoma, vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé des stratégies et prospectives économiques. D'abord, de façon générale, par rapport à cette conférence de presse du Premier ministre, c'était un Augustin Matata Ponyo très détendu, lançant plusieurs fois des blagues. Pour vous qui êtes dans les secrets des dieux, qu'est-ce que ça présage, cette attitude du Premier ministre? C'est l'une des rares fois où on le voyait aussi détendu, comme je l'ai dit.
Merci pour la, de m'avoir donné d'abord l'occasion de pouvoir m'exprimer ici à Radio Capi, à l'occasion de cette émission. Je vais sûrement dire que je pense que pour l'instant, le Premier ministre a eu l'occasion, il a déjà une année et demie qu'il est au pouvoir, et donc il a maintenant la maîtrise de la chose qu'il dirige. Il est bien normal qu'il soit beaucoup plus à l'aise qu'avant, parce que évidemment, il est dans l'habit du Premier ministre de façon normale et, comment dire, l'année commence, il a suffisamment d'énergie pour pouvoir se relancer pour cette année 2014.
Suffisamment boosté par le bilan positif qu'il a présenté.
Bien évidemment, je pense que, d'ailleurs, il a été relativement modeste, il n'a fait que donner l'état des lieux de l'économie congolaise telle que nous l'avons connue en 2013. Et comme il a dit, il y a eu beaucoup de défis. Mais heureusement que la situation a été favorable pour notre pays et nous ne pouvons que nous en féliciter au niveau du gouvernement.
Alors aujourd'hui, nous basons notre débat sur les aspects économiques et sociaux. Nous allons, monsieur le conseiller, ouvrir le bal en prenant cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Vincent Mbawa, depuis Kinshasa, la commune de la Sele. Si seuls les propos des politiciens pouvaient déterminer le cours de la vie, alors la RDC serait le pays le plus prospère du monde. Car contrairement à beaucoup de pays où les dirigeants reconnaissent volontiers leurs échecs et parfois même démissionnent, en RDC, hélas, depuis des années, les bilans de nos dirigeants ont toujours été positifs. Mais dans l'entretemps, la vie du Congolais ne fait que se précariser. Nous n'avons que faire des cas de macroéconomique ou microéconomique. Nous n'avons besoin que du mieux-être.
J'ajoute, monsieur le conseiller, la réaction de Guy Molimba Mwambali qui dit « Que veut dire cadre macroéconomique pour une maman qui habite un coin perdu de la RDC, un enseignant ou un fonctionnaire qui est payé $50 comme salaire par mois ? Les exemples sont nombreux pour ne pas être très long. Je suis à Bukavu, je ne vois pas les constructions dont il parle. Kinshasa est-elle la RDC ?» Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je veux tout simplement leur dire que leur position pessimiste traduit la, comment dire, les attentes de la population depuis beaucoup d'années. C'est pas seulement à partir de maintenant. Nous avons détruit le pays depuis plus de 40 ans. On va pas le construire en une année, en deux ans. Le travail qui est fait actuellement, c'est un travail des titans. Mais du fait qu'on était vraiment dans le fossé, les gens, la population ne voit pas directement tout cela. Il est tout à fait normal qu'ils soient relativement pessimistes. Mais les choses doivent s'améliorer progressivement. Mais il faut du temps. Donc, des questions sociales telles qu'ils essaient de les évoquer, le salaire des fonctionnaires qui est bas. Mais si nous prenons le cas des dernières années, des 10 dernières années, le niveau d'inflation était de combien? Lorsqu'en 1994, nous avons 9760% des taux d'inflation. Cela veut dire que nous avons multiplié les prix des biens et services par 100, au moins. OK? Si vous le mettez par 100 et que le prix, le salaire du travailleur n'a pas augmenté, ça veut dire que son pouvoir d'achat a baissé. Maintenant, son pouvoir d'achat ne baisse pas. Ça, on ne voit pas. C'est des choses qu'on doit assez facilement voir. Si ces fonctionnaires qui touchent $50, mais qui ne les touchait pas, qui les touchait peut-être 3-4 mois après, maintenant, ils les touchent même en avance. C'est pas une avancée. La question de savoir, est-ce qu'ils s'imaginent le travail qui a été fait pour quitter des arriérés de 60 jours pour arriver à toucher 20 jours avant. C'est ça qu'il faut, à ça qu'il faut réfléchir, pour voir le niveau d'effort fourni par le gouvernement.
Et le Premier ministre, comme je disais un peu en blaguant, il disait que dans sa conférence de presse, pour le paraphraser, que en fait ceux qui sont les plus bénéficiaires de la stabilité du cadre macroéconomique, ce sont les mamans maraîchères et non pas ceux qui voient le dollar comme vous et moi. Il s'adressait à ceux qui étaient dans la salle.
Tout à fait. Parce que comme vous voyez par exemple actuellement, prenons ces cas, parce que lorsque nous parlons de stabilité des cadres macroéconomiques, les gens ont tendance à prendre ça à la légère. Ils ne s'imaginent pas ce que ça veut dire économiquement, mais ce que ça veut dire socialement. Dans tous les pays du monde, en commençant par les États-Unis, la première condition pour qu'une économie fonctionne normalement, c'est sa stabilité des cadres macroéconomiques. Avoir un niveau d'inflation faible. Avoir un niveau de taux de change qui soit relativement stable. Et nous avons un taux d'échange qui est resté stable pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, vous aviez le pouvoir d'achat du franc congolais qui est le même aujourd'hui.
celui qui touchait 50 dollars il y a 4 ans, il est dans le même pouvoir d'achat maintenant. Ça, c'est très, très important. Et c'est ce que le Premier ministre disait. La première personne, les premières personnes qui bénéficient de cette stabilité, ce sont les couches sociales défavorisées. C'est là qu'ils touchent en franc, parce qu'elles constatent qu'effectivement, ils sont allés au marché, par exemple, aujourd'hui, ou il y a une semaine. Dans une semaine, quand ils vont y aller, ils vont avoir, avec le même montant, ils vont avoir le même pouvoir d'achat, ils vont acheter la même quantité de biens et services sur le marché. Et ça, c'est depuis longtemps que ça n'existait pas dans le pays. C'est depuis longtemps.
Même sur le conseiller, quand le Premier ministre dit que la croissance par rapport à la croissance, on est autour de 8%, on sait que dans les pays occidentaux, quand on parle ne serait-ce que de 0,1%, ça représente beaucoup, mais en RDC, 8,5%, c'est trop et ça ne se fait pas sentir, malheureusement.
Vous avez raison, mais il faut mettre ça dans les cadres. Quand vous parlez des autres pays développés, ce sont des pays développés où le niveau des richesses est très élevé. C'est par exemple, vous prenez un pays quelconque où le niveau, les salaires moyens, okay, est de combien? De 30 000 dollars, salaire annuel. Par exemple, 30 000 dollars. Quelqu'un qui a un salaire annuel de 30 000. Okay, il a un pouvoir d'achat plus élevé. Deuxièmement, je crois que c'est ça l'élément qui est quand même important qu'il faut savoir. Je vais prendre deux cas simples. Je prends le Sud-Soudan. Le taux de croissance de l'économie du Sud-Soudan en 2013 est de 43%. C'est-à-dire combien de fois? C'est-à-dire 5 fois le taux de croissance presque de la RDC. Est-ce que vous allez dire que les Sud-Soudanais vivent mieux que les Congolais? La réponse est non. Ils viennent de la guerre, il y a toute une série de situations. Leur niveau de vie est très faible. Et cela, c'est la même raison. Du fait que nous avons un pays avec une richesse faible, nous avons commencé à un niveau plus bas, même si nous avons un taux de croissance de 10%, mais si c'est 100 dollars, taux de croissance de 10%, vous êtes à 110. Mais quelqu'un qui a 1 million de dollars, taux de croissance de 0,5%, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Honorable Mary Okundji, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Vous êtes membre de la commission politique, administrative et judiciaire à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez le bilan dressé par le Premier ministre sur les plans social, économique et social?
Bien, merci pour la question. Je vais bien croire à le Premier ministre, d'autant plus que c'est lui qui gère la République au quotidien. Mais lorsque je jette un coup d'œil dans le cadrage macroéconomique qu'il nous présente, je constate tout de suite qu'il y a beaucoup de contradictions. Lorsque je prends la réédition des comptes, 2012, vous trouverez par exemple, au niveau des chiffres, hein, vous trouverez par exemple que les taux d'inflation fin période que nous donne le Premier ministre, c'est 2,7%. Et lorsque vous prenez la loi portant ouverture des crédits provisoires pour le mois de janvier 2014, on nous donne le taux d'inflation fin période révisé de 9,9%. Même chose, lorsque vous allez même à la loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2011, vous trouvez ces contradictions-là. Dans la réédition des comptes, vous avez 6,9 dans la loi 2011, j'ai dit, hein, dans la loi de portant crédit provisoire, le taux de croissance fin période est de 6,6. C'est énorme. Et donc, vous constaterez que nous ne savons pas quel indicateur croire. Et donc, il y a beaucoup de contradictions qui nous laissent penser à l'embellie des chiffres. Mais là n'est pas le problème. On peut même s'en passer de cela. Mais mon cher ami, la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est l'augmentation de la richesse, de la création de richesses dans un pays. Et il y a d'ailleurs un prix Nobel d'économie, monsieur Paul Krugman, qui dit que les statistiques, c'est-à-dire les indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire taux de croissance, taux du produit intérieur brut n'ont de sens que lorsqu'elles ont des répercussions sur la vie sociale de la population. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le niveau social de notre population, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi il n'y a pas répercussion sur le vécu quotidien des Congolaises et Congolais? Pourquoi? C'est la question fondamentale. Et dans le passé, un chef d'État a posé la question à son premier ministre. Est-ce que le peuple Akoli a rigueur, Nayo? Est-ce que le peuple Akoli a macroéconomique? C'est la même question que nous posons aujourd'hui au premier ministre.
Mais vous êtes quand même l'autorité budgétaire, honorable Okundji. Vous avez plusieurs fois adressé des questions orales, avec débat, sans débat. Vous avez exercé plusieurs fois le contrôle parlementaire. Pour vous, pourquoi le peuple congolais ne ressent pas finalement la répercussion de cette croissance sur son social?
Effectivement, mais c'est puisque nous disons qu'il y a un maquillage, il y a embelli des chiffres. Hein? Parce que cette croissance ne se fait pas ressentir lorsqu'il y a un taux de croissance. Mais normalement, on devait avoir des répercussions au niveau social, en ce qui concerne par exemple la création d'emplois. On devait créer, parce que les richesses se sont créées, on devait quand même avoir des créations d'emplois, on devait sentir cela dans le vécu quotidien des Congolais, dans le panier de la ménagère. Mais aujourd'hui, vous-même, vous êtes témoin de la misère au niveau de nos différentes populations. Et alors, à quand les répercussions de cette santé et du cadre macroéconomique? C'est la question que nous nous posons. Quelle est cette embellie macroéconomique qui n'apporte pas un avancement social réel ou alors une progression sociale visible? C'est la question que nous nous posons et nous disons au même moment, parce que qui donne la leçon doit l'exemple, nous disons qu'il faudrait que le Premier ministre puisse en tout cas mener une politique qui profite aux Congolais.
Alors, Honorable, je vous redonne la parole puisque vous l'avez toujours. Le conseiller, le professeur Tangoma, le Premier ministre également l'a dit. Ces efforts ne se font-ils pas sentir simplement parce que le fossé était quand même trop grand, le pays était tombé trop bas, comme ils l'ont dit?
Non seulement que le fossé était trop profond, mais il y a aussi un problème de gestion au quotidien, mon cher ami. Et cela s'explique. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Lorsque nous entrons dans le domaine des passations des marchés publics, vous constaterez que les gens créent des sociétés, beaucoup de sociétés fictives. Et au moment des soumissions suite aux appels d'offres, vous trouverez que très souvent, ce sont ces sociétés fictives qui gagnent le marché au détriment des sociétés, des vraies sociétés qui existent, l'office de route, etc. Vous trouverez aussi que nous exportons beaucoup, nous importons aussi beaucoup, mais cela échappe au trésor public. Cela est profitable aux individus, aux particuliers, au détriment de l'État congolais. Et donc,
merci.
L'État donne plus qui n'en reçoit, il en reçoit moins, si vous voulez.
Merci.
Et donc, c'est ça la conséquence de cette politique que mène le gouvernement aujourd'hui.
Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Vous êtes également analyste économique. Vous venez de suivre le professeur Tangoma, l'honorable Okundji. Comment vous analysez le bilan dressé par le Premier ministre?
Je trouvais que c'était un bilan mitigé. Je partage quand même avec le Premier ministre son enthousiasme sur la stabilité du cadre macroéconomique. À la question de savoir si le peuple va manger le cadre macroéconomique, aujourd'hui je réponds ici avec un ton péremptoire que oui, le peuple va manger le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique est très précieux pour qu'on le puisse blaguer ou s'amuser avec. Et donc, j'aimerais dire quand même aux Congolais lambda que le cadre macroéconomique ressemble à une clôture préalable. Tu veux faire un champ, ce champ,
il peut y avoir des animaux sauvages qui vont venir détruire ce champ là-bas, alors tu fais une clôture pour que quand tu vas s'aimer, quand tu vas labourer, que les animaux sauvages ne viennent pas détruire le champ. C'est ça un peu le cadre macroéconomique. C'est un préalable à la croissance, c'est un préalable au progrès social. J'aimerais qu'aujourd'hui que toute la société congolaise, toute la classe politique partage la pertinence de la stabilité du cadre macroéconomique. Que ce débat soit dépassé de c'est quoi le cadre macroéconomique, on ne mange pas le cadre macroéconomique. Élevons le débat, tenons pour acquis la stabilité du cadre macroéconomique. Sinon, nous en sortirons jamais, alors jamais. Évidemment, le cadre macroéconomique à lui tout seul ne suffit pas. En économie, on appelle ça un préalable. Mais en économie, il y a la théorie des déterminants de croissance. Santé, croissance, infrastructure, attirer les investissements. Bref, il y a toute une palette des mesures qui doivent accompagner la stabilité du cadre macroéconomique parce qu'à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. C'est un élément d'un ensemble plus complexe. Et donc, la stabilité du cadre macroéconomique qu'on a observé toutes ces dernières années est à saluer, c'est à féliciter. Il faut s'en réjouir. Un taux d'inflation aussi bas, c'est une performance extraordinaire. Des réserves d'échange autour de 1,7 milliard de dollars, c'est extraordinaire. Un franc congolais stable, c'est extraordinaire. Parce que le social, on ne l'améliore pas seulement en augmentant de salaire. En renforçant le pouvoir d'achat du Congolais moyen, c'est ça justement une façon de faire du social. Mais ce n'est pas suffisant, j'en conviens, et c'est là que je vais retomber quand on parlera peut-être des aspects sociaux. Mais sur la stabilité du cadre macroéconomique, sur le taux de croissance qui est à 8%, nous sommes sur la bonne voie, c'est vrai. Mais est-ce que nous allons aussi vite que nous le souhaitions? Est-ce que nous allons aussi loin que nous le pouvions? Là, je dis non. Voilà pourquoi il faut continuer à travailler sur l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption, faire en sorte que le train de vie de l'État soit qu'on réduise le train de vie de l'État pour qu'on dégage des ressources additionnelles pour financer tel projet. Donc nous sommes au moins sur l'aspect du cadre macroéconomique sur un très très bon terrain.
Nous allons prendre pour vous, Israël Moutala, cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Pierre Chindano Koko de Bukavu aussi Kivu. Je crois que le bilan évoqué par le premier ministre Matata sur le plan économique et social est très mitigé, car ce dernier oublie qu'il y a des milliers de jeunes diplômés errant à la quête de l'emploi et qui malheureusement n'en trouvent pas. De même qu'au niveau macroéconomique, nos frontières sont toujours poreuses, ce qui disqualifie la politique interne et externe de la RDC sur l'échiquier international.
Au moins, avec cet auditeur Israël Moutala, vous partagez le même point de vue aussi quand il dit que le bilan est mitigé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec son argumentaire?
Je suis d'accord que la jeunesse que je défends, de laquelle je suis moi-même issu, est confrontée à plusieurs problèmes. Mais je dis ceci, voilà pourquoi je dis par exemple, quand on nous parle d'un taux de croissance, j'avais dit que c'était un peu mitigé, quand on parle d'un taux de croissance de 8,5%, c'est vrai, il n'est pas suffisant, parce que l'objectif c'est d'atteindre un taux de croissance à deux chiffres, ça veut dire que vous créez plus de richesses. Mais tout taux de croissance doit être balancé avec le taux de la démographie. Ça, on n'a pas balancé. Donc, j'imagine que le taux démographique de la RDC est autour de 5%. Donc, si vous faites autour de 3%, donc si vous faites 3% moins 8,5, donc on crée à peu près 5% de richesse. Donc, d'accord. Donc, vous voyez que nous sommes encore loin du compte. C'est-à-dire que il faudrait que nous arrivions à maîtriser le taux de croissance démographique. Il faut qu'on le mette toujours en perspective avec le taux de croissance. Il y a deux éléments. Il ne faut pas seulement montrer le taux de croissance. Ça veut dire que vous êtes un ménage de 10 personnes, votre papa gagne 100 dollars, et puis les enfants, il y a une maternité toutes les années, mais entre-temps, le salaire ne progresse qu'à 1 dollar. Vous ne faites rien. Ça veut dire que vous pouvez garder le taux de croissance de 8%, mais si le taux démographique est toujours élevé, donc vous n'allez pas suffisamment réduire la pauvreté. Mais il faut qu'on mette ça en perspective avec le défi démographique. Et donc, c'est aussi un levier, les naissances désirables. Il faut beaucoup d'éducation pour qu'on maîtrise le taux démographique. Il faut mettre ça en perspective. Et donc, un autre aspect de la chose, c'est que la croissance, justement, il y a des capitaux, il y a les risques. Donc, les gens veulent profiter du fruit de la croissance sans participer à la croissance. C'est aussi une question qu'il faut résoudre. Que font justement les Congolais pour participer à la croissance? Que fait l'État pour impliquer les Congolais à participer à la création de richesses?
Oui, mais
les
parce
gens
que
veulent les retombées de la richesse.
L'économie est entre les mains des étrangers, des expatriés, comme a dit l'honorable.
J'ai vu les gens se mouvoir parce que aujourd'hui nous sommes à 800 millions de tonnes de cuivre. Mais les 500 000 tonnes près de cuivre dans les années 80, au début des années 90, fin 80, était le fait de l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'argent de l'État. C'est-à-dire, c'est un privé qui produit ces 500 000 tonnes de cuivre, qui les exporte et sur lequel l'État ne perçoit que des taxes et en faible proportion. Et donc, les données ont changé. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'État était propriétaire de la Gécamines et qu'il produisait 800 000 tonnes de cuivre, aujourd'hui l'État aurait plus de marge de manœuvre pour une meilleure action sociale. Et donc, c'est la question de la création de la richesse qui doit être au cœur, justement, de la politique gouvernementale. Et je pense que là, il y a débat, mais nous sommes dans la bonne direction.
Professeur Jean-Baptiste Tangoma, il y a Kabayou qui nous écrit de Manono Katanga qui dit « Je pense qu'il est utopique pour le Premier ministre de vanter toutes ses actions suite à la stabilité de la monnaie qui n'a rien de positif sur le social des Congolais, ça on l'a déjà dit. Ainsi, pour palper les réalités, que le Premier ministre soit mobile, c'est-à-dire qu'il fasse des tournées à l'intérieur du pays. On a plus senti le Premier ministre se focaliser sur Kinshasa, mais Kinshasa n'est pas la RDC comme on le dit souvent. »
Oui, merci. Je pense que je vais, avant de répondre à la question, réagir quand même par rapport aux réactions des collègues sur deux points. D'abord, sur la question de la rigueur. Il n'y a rien qui peut fonctionner dans un pays qui se cherche sans qu'il y ait une discipline aussi bien budgétaire, aussi bien politique. Et ça relie la question de la gouvernance. Nous sommes en train de parler de la qualité de la gouvernance. Vous n'allez pas faire des choses dans la légèreté et espérer avoir des résultats. Et donc, la rigueur du Premier ministre, c'est pas une rigueur comme nous l'avons connue dans les années 80, dans les années 70. C'est une rigueur qui nous permet une discipline pour le développement. Il a d'ailleurs qualifié lui-même d'une rigueur sociale, pour dire la rigueur que nous sommes en train de mettre en place nous permet une meilleure gestion des finances publiques, qui dégage, nous avons vu en 2012, de dégager de marge des trésoreries qui nous ont permis de financer des projets sociaux. Lorsque nous parlons de 1000 écoles que nous sommes en train de construire, cet argent vient d'où? C'est par la rigueur. Nous avons eu des excédents de marge des trésoreries de l'ordre d'à peu près 400 millions de dollars qui nous permettent de financer ces 1000 écoles, qui nous permettent de financer des routes, qui nous permettent de financer des centres de santé dont il a parlé, des hôpitaux. Si on l'avait pas fait, si des gens qui étaient au pouvoir avant les mettaient dans leur poche, on n'aurait pas ces écoles depuis que le pays existe. Ok? Il n'y a aucun gouvernement qui a construit des écoles. Mais deuxième élément que je voulais réagir, c'est sur la question de la transparence. L'honorable Emery Okundja parlait des problèmes de reddition de comptes. Je lui pose une question. Est-ce qu'il connaît le gouvernement, depuis que le pays existe, qui a fait la reddition de comptes dans le délai? Aucun. Le gouvernement Matata est le seul et le premier à avoir présenté ça en une année. Les autres, c'est 6 ans après. C'est-à-dire, le Parlement n'a même pas l'occasion de vérifier si tel gouvernement a bien fait des choses, parce qu'on va lui envoyer ces documents-là, ok, 6 ans après qu'il soit parti. Et autre chose, les dépenses en suspens, les encours. Ok? Vous allez au ministère du budget, sur le site internet, vous savez, vérifier quelles sont les dépenses qui sont en suspens. C'est-à-dire, par exemple, qui ont été dépensées, pour lesquelles il y a eu un décaissement, sans qu'on ait respecté la procédure, pour lesquelles on doit faire la régularisation par la suite. Ça, c'est de la transparence. C'est-à-dire, on leur montre ce qu'il faut faire.
Mais il y a des députés qui ont dénoncé, monsieur le conseiller, des cas d'enrichissement illicite du Premier ministre, des problèmes de gestion, des détournements, des fraudes. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que nous sommes très à l'aise là-dedans. Ceux qui ont dit qu'il y a des détournements, il faut leur poser la question. Et où sont les preuves? Où est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que le Premier ministre se promène dans une Rolls-Royce? Est-ce qu'il a changé son train de vie? Ou est-ce qu'il a acheté une maison? Où est-ce qu'il a acheté un yacht?
C'est à vous de nous le dire.
Non, c'est ceux qui attaquent qui doivent donner les preuves. Il n'y en a pas. Nous avons réhabilité l'hôtel du gouvernement. On a réhabilité plein d'immeubles de l'État, c'est tout. Et les gens sont mécontents de voir que nous pouvons faire des choses en bien. Je crois que c'est quand même
Alors avant de donner la parole à l'honorable Okundji, qu'est-ce que vous répondez très rapidement à ceux qui pensent que le Premier ministre ne s'est focalisé que sur Kinshasa, qui n'est pas la République démocratique du Congo?
Oui, je pense que il faut considérer que le Premier ministre, en commençant son mandat, il avait énormément du travail à faire. Et donc, il a commencé par se concentrer sur les fondamentaux. Et donc, il devait rester principalement au niveau de Kinshasa. Et puis, il a eu l'occasion de prendre son bâton de pèlerin pour aller à l'étranger, pour gérer des problèmes de d'ordre diplomatique. Et je pense que tout à fait normal. Maintenant, je pense que dans la suite, il ne faut pas nécessairement dégager du temps pour l'intérieur.
Honorable Emery Okundji, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Yves Lubumbi, j'habite Lubumbashi dans la province du Katanga. Rome n'a pas été construite en un seul jour. Et le Congolais doit être conscient du degré de délabrement dans lequel la RDC a été plongée par les politiciens dont certains se retrouvent être les contradicteurs de l'actuel exécutif. Il faut comparer les premières actions du gouvernement Matata à la pose de la fondation dans la marche de la RDC vers le concert des pays émergents.
J'ajoute, honorable, la réaction d'Olivier Kaloumé qui dit « Je suis derrière le Premier ministre, il a dit, il a fait, il a réalisé au moins 85% de ce qu'il avait dit. Je suis vraiment très fier d'avoir un Premier ministre comme Matata Ponyo, c'est un homme de parole. Grand merci à lui et à tout son gouvernement. » Qu'est-ce que vous répondez à cette frange de Congolais qui croit en ce que fait le Premier ministre, contrairement à ce que vous pensez?
Ah ben c'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Je crois que c'est Paul Krugman toujours qui disait que l'économie n'est pas une fiction, c'est une réalité. J'ai eu à comparer, même en termes de mobilisation des recettes. Vous trouverez que le gouvernement qui a précédé Matata Ponyo a mieux mobilisé les recettes que le gouvernement Matata Ponyo. Et ce sont des données qui parlent. Prenez les données de 2008, 2010, 2011, 2012, vous trouverez que cela est vrai. Mon cher ami, vous savez que même aujourd'hui, ben, il y a une forte production minière au niveau des hydrocarbures et au niveau même de l'électricité. Mais quelle est la part réservée à l'État au niveau du budget? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et lorsque vous prenez même le rapport de notre commission ECOFIN relatif même à la loi des finances, vous constaterez que la commission dit ceci, constate une multiplicité d'exonérations accordées par le gouvernement à certains opérateurs économiques, voire même à durée indéterminée, dans les secteurs miniers et des hydrocarbures. Il faudrait qu'il y ait la vraie transparence. Il faudrait qu'il y ait la bonne gouvernance. Le problème, c'est quoi? Le problème est que, très souvent, je l'ai démontré, même au niveau des passations des marchés, nous exportons, nous importons, mais cela ne rentre pas dans la caisse de l'État. Et je l'ai démontré même au niveau des régies financières, qu'il y a coulage des recettes de l'État, il y a détournement. Et donc, les gens s'enrichissent plus que l'État. Et donc, il y a un problème. Moi, je ne viens pas faire des analyses économiques ici. Je l'ai démontré sur base des chiffres, même en ce qui concerne le cadre macroéconomique. Je n'en dis qu'on vient pas, qu'il faut commencer par là. Mais il faudrait nous donner des indicateurs corrects qui, en tout cas, reflètent la réalité. Et c'est parce que si nous avons des indicateurs corrects, si nous n'avons pas embelli des chiffres, si nous n'avons pas des chiffres, quels chiffres croire? Je vous ai donné les documents, j'ai avec moi les documents ici, qui proviennent du gouvernement, où vous trouvez que les chiffres sont contradictoires. Quel indicateur croire? Et cela se traduit, étant donné que c'est du maquillage, cela se traduit sur le terrain par ce que nous vivons. Les peuples, nos différentes populations ne ressentent pas cela dans leur vécu quotidien. Après tout, la finalité d'une action politique, c'est quoi?
Et d'après vous, honorable Emery Okundji, par où fallait-il commencer?
Eh bien, je ne dis pas que le Premier ministre a mal commencé, mais il y a des problèmes qu'il faut résoudre urgemment. Il faudrait qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faudrait que les recettes de l'État soient canalisé vers les trésors publics. Il faudrait éviter à ce que les hommes politiques se transforme beaucoup plus en homme d'affaires. Puisque le cas d'exonération qui ne dit pas son nom, accordé de manière aveugle, et c'est très souvent même à durée indéterminée à certaines compagnies, fait perdre à l'État d'énormes ressources. Fait perdre à l'État beaucoup d'argent. Et ce sont des particuliers Merci. Qui en bénéficient, des individus qui en bénéficient au détriment de l'État et donc au détriment de l'ensemble des Congolaises Merci. Et Congolais.
Israël Moutala, il y a Kairi Matembera de Kalemi au Katanga qui dit « Je félicite le Premier ministre de ses réalisations de 2013, mais cela n'a pas rendu son bilan positif suite à un faible combat contre la corruption, la fraude, l'inégalité sociale ainsi que la transparence dans la gestion des biens publics. »
C'est vrai, il y a du progrès à faire sur le plan de la corruption. C'est-à-dire que l'état général de la classe politique, l'état général de l'homme congolais, c'est que quand on a une portion de pouvoir, c'est de se considérer être au-dessus de la loi. Il n'y a qu'à voir les autorités qui se promènent sans plaque d'immatriculation, un truc de bon sens. Donc, ils pensent que quand tu as une partie de pouvoir, il faut se promener dans la ville sans plaque d'immatriculation. Or, une plaque d'immatriculation, c'est pour identifier un véhicule en cas d'infraction à la loi ou en cas d'accident. Et donc, la mentalité ambiante, c'est une mentalité contre l'État, c'est des gens terribles. Alors pour réformer ça, ça prend du temps. Et donc moi je vois, je connais les magistrats, je sais dans quelle ambiance ils baignent. Pour les faire suivre, c'est difficile parce que le politique lui-même est le premier coupable. Les premiers corrompus de ces pays, ce sont les politiciens. Et donc nous sommes tous les fruits d'une société en perte de valeur. Et donc il faudrait à un moment que quelqu'un arrête et indique les repères que nous devons suivre. Donc il faut restaurer les repères moraux d'un État. Il faut restaurer l'intérêt général. Mais là où j'avais dit par exemple que je n'étais pas tout à fait d'accord avec le Premier ministre, et c'est vrai, c'est par rapport à Transco 300 bus, c'est vrai, c'est énorme, mais c'est par rapport au défi. Il ne va pas dire parce que 300 bus pour Sotras, dans les années, là, la population n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, nous sommes à Kinshasa, une mégalopole de 10 millions d'habitants à peu près. Il faut combien de bus pour résoudre le gap de les problèmes qui se posent pour la circulation des personnes de leurs biens. Et donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, on a plus que Sotras. Ce n'est plus là le défi. Le défi, c'est de faire que l'offre de transport public corresponde à la demande de transport public. Et même là aussi, sur la question des logements sociaux, j'ai noté avec satisfaction qu'on construit. Mais ce n'est pas ça le problème. Le gouvernement doit créer les conditions pour que des sociétés immobilières puissent essaimer ça et là à travers la République pour qu'il y ait des crédits à certains Congolais, à certains taux, pour qu'ils accèdent à un logement décent. Construire 1000 logements, c'est une goutte dans l'océan. Il faut créer des conditions pour que à Matadi, à Lubumbashi, à Kisangani, qu'il y ait des sociétés, des privés congolais ou d'autres d'ailleurs, pour que cela crée des sociétés qui peuvent donner en location, location bail ou je sais pas moi, des maisons. Et voilà, c'est cette politique-là. Il doit créer le cadre général, d'épanouissement général. Donc, mais des petits projets comme ça, je ne crois pas cette politique-là de créer 1000 logements à gauche. Pour les écoles, même, c'est vrai, on a travaillé sur les infrastructures, 1000 écoles, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça, quoi, sur des édifices. Il faudrait bien payer les enseignements et qu'il y ait des frais de fonctionnement. Parce que j'ai vu certains édifices réhabilités, l'état dans lequel ça se trouve, ça, c'est pitoyable. J'étais il y a quelques mois aux cliniques universitaires, mais pour être soigné par un médecin, c'est tout un problème. Il y a une procédure administrative stupide qui peut vous prendre 30 à 45 minutes. Et donc, il y a des problèmes. Ça veut dire que l'objectif, c'est faire en sorte que les Congolais accèdent à des soins de santé. Mais pour y accéder, il faut quoi ? Des médicaments, des infrastructures, des médecins bien payés, des infirmiers bien payés. Donc, nous demandons au Premier ministre de créer le cadre général d'épanouissement de tous les services publics, mais pas des petits projets à gauche et à droite. Voilà un peu ma philosophie de l'action sociale du Premier ministre.
Et donc, ce cadre-là doit s'inscrire, évidemment, dans une vision globale.
Dans une vision globale, dans une vision globale.
Et c'est ce qui semble faire défaut pour l'instant.
Oui, dans une vision globale. Et donc, j'appuierai encore davantage, au lieu de faire 1000 logements avec les frais du gouvernement, moi, pour ma part, je dirais qu'il faut qu'il appuie encore le projet de réunification routière, parce que si ce projet aboutit, on crée plus de richesses, on dégagerait alors des marges pour être plus efficace dans le social. Ah donc là, les actions sociales qu'il met, qu'il essaye de poser ça et là, risquent d'être interprétées comme du saupoudrage parce qu'ils n'auront pas un impact réel, parce que les besoins sociaux sont tels que 1000 logements ou c'est pas ne vont pas résoudre le problème. Donc voilà un peu cette vision globale que j'aimerais que le premier se puisse rester là, cadre macroéconomique, création de richesse, amélioration du climat des affaires pour dégager, attirer davantage d'investisseurs et comme ça il aura plus de marge de manœuvre dans le social.
Quelques réactions des auditeurs Alain Lipanda de Kinshasa. Quant à moi, le bilan que le premier ministre a adressé par rapport aux éléments qu'il a cités est quasiment positif. Nous ne pouvons pas être toujours des pessimistes. Nous qui vivons à Kinshasa, nous constatons quand même des avancées. Bien que c'est un peu timide, mais c'est mieux qu'auparavant. Thierry Machagiro de Goma en Nord-Kivu, je pense qu'il y a une avancée sur d'autres plans. Mais quant à ce qui est de la stabilité du cadre macroéconomique, cela n'a cependant aucun impact dans le panier de la ménagère. Innocent Armand Kondoli, son bilan du point de vue macroéconomique est positif. Quant à l'impact de ce bilan sur la population, il est imperceptible car le pouvoir d'achat de celle-ci, de la population, demeure toujours très bas et le panier de la ménagère est difficile à se remplir. Professeur Jean-Baptiste Tangoma, vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé des stratégies et prospectives économiques. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Le Premier ministre a également parlé des perspectives. En un mot, qu'est-ce que les Congolais qui sont en train de vous suivre en ce moment doivent espérer par rapport à l'avenir?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut espérer pour l'avenir. Évidemment, quand on dit avenir, il faut le voir sur le moyen et le long terme. Mais au moins, sur la perspective de 2014, il y a un certain nombre d'actions que nous voudrons pouvoir mener. Mais tout cela est presque concentré sur un projet que nous tenons beaucoup à cœur, c'est le projet de parc agro-industriel. Comme on disait, la question sociale ne peut pas être gérée à très court terme. Pouvoir le faire de manière à pouvoir donner par exemple de l'emploi aux jeunes qui disent qu'ils ont des gros problèmes. Nous avons concentré sur l'agriculture. Nous sommes concentrés sur l'agriculture. Et donc nous allons pouvoir créer ce système de créer donc ces parcs agro-industriels qui permettent d'attirer non seulement les fermiers et les paysans, mais aussi de créer un environnement qui nous permet de créer beaucoup d'entreprises dans tous les domaines précis. Et donc ça va pousser la réduction de l'emploi, disons, du chômage à un niveau beaucoup plus élevé.
Et donc, professeur, pour conclure déjà, les Congolais doivent-ils espérer en l'avenir, comme nous le disons?
Ils ont déjà fait confiance aux actions que le Premier ministre a menées. Ils constatent que c'est du concret, c'est pas de la démagogie qu'il fait. Je pense que la population ne peut pas se cantonner de suivre des discours populistes, des gens qui crient, alors que dans la réalité de fait, on le constate. Et d'ailleurs, les chiffres sont là. Les chiffres que nous avançons, ce ne sont pas les chiffres du gouvernement. Ce sont les chiffres d'autres institutions, comme les Fonds monétaires, qui sont plus pessimistes, plus optimistes que nous.
Merci,
donc,
professeur.
Nous pensons que ça devrait avancer.
Honorable Emery Okundji, un mot sur les perspectives. Le Premier ministre s'est étendu sur la sécurité. Il faut mettre fin aux rébellions, organiser les élections. Le professeur a également parlé des parcs agro-industriels sur le plan de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de ces perspectives?
Avant de répondre à votre question, pour m'a dit, permettez-moi de dire un mot sur le social.
Très rapidement.
On en a créé 1000 écoles, mais dans le passé, on en a détruit combien? Regardez un peu l'université de Kinshasa, à quel état elle se trouve aujourd'hui. Et donc, au lieu de prétendre construire des écoles, d'autant plus que ces écoles-là sont aujourd'hui construites de manière partisane, c'est-à-dire qu'on a choisi les lieux, puisque c'est chez moi, ou c'est chez tel, ou c'est chez tel, autant réfectionner l'université qui faisait la fierté de toute l'Afrique, l'université de Kinshasa qui se meurt du jour au jour. Et donc, il faudrait avoir cette ambition au lieu de construire d'abord, d'entretenir ce que nous avons. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, je suis tout à fait d'accord. C'est le gouvernement qui a le monopole de son action ou de son programme gouvernemental. Mais pour y arriver, il faut mettre en tout cas de l'ordre dans la maison, mettre fin à l'impunité, mettre fin au coulage des recettes de l'État, mettre fin au détournement des deniers publics. Et donc, canaliser les recettes de l'État vers le trésor public.
Merci.
Au lieu que ces recettes servent une minorité qui s'enrichisse insolemment, autant que ces richesses servent toute la République démocratique du Congo.
Israël Mouta, la conclusion.
Ma conclusion, c'est que nous devons consolider le cadre macroéconomique parce que le cadre macroéconomique ne profite pas que à peu près 1 million de fonctionnaires que compte l'État qui travaille pour, mais ça profite aux 70 millions, aux 60 millions de Congolais. J'aimerais aussi que sur la question de la croissance, que l'on veille à la qualité de cette croissance pour que les dividendes soient plus palpables à l'ensemble de la population.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.